c'est toujours avec le même plaisir que les messagers du cheval vous retrouvent aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval, une émission proposée par Virginie Bauer.
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis sur CFM Rodez et CFM Villefranche de Rouergue. Virginie, tu as intitulé cette émission « L'hypiatrie, la médecine vétérinaire des chevaux ». Alors, depuis que l'homme et le cheval sont liés, ont lié leur sort, les premiers ont compris à divers degrés qu'il était important de prendre soin des seconds. Compte tenu de l'importance du cheval dans les sociétés humaines, les soins qui leur sont prodigués donnent naissance à une véritable science du cheval appelée l'hypiatrie, hippus cheval. Il faut rappeler que ce n'est pas la même chose que l'hippologie.
Oui, en effet, Michel, ces deux termes couvre des domaines différents. Le mot hippiatrie apparaît en français au XVIe siècle. Il provient du mot grec hippiatros, le médecin des chevaux. En 1762, avec la création des premières écoles vétérinaires dont nous avons parlé, on lui préférera le mot d'art vétérinaire, puis plus tard de médecine vétérinaire. Le mot hippologie, lui, vient également du grec hippos, qui signifie cheval, et de logos, qui veut dire discours. Il s'agit donc de la science ou de l'étude du cheval qui touche aux connaissances le concernant. Donc ce n'est pas la même chose. Alors, l'hippiatrie, Michel, s'est développée en Asie centrale, parmi les peuples hittites, perses et assyriens, ainsi que dans la Grèce antique. Parmi les premiers traités grecs connus, il y a celui de Simon d'Athènes, Hipposcopie ou art vétérinaire, rédigé vers 424 avant Jésus-Christ, et le célèbre De l'équitation de Xénophon, dont les dates sont 445-354 avant Jésus-Christ, et grâce également aux travaux d'Hippocrate de Cos, lui c'est 460-370 toujours avant Jésus-Christ, ces travaux donc marquent le début de la médecine, et les Grecs jettent à ce moment-là les premières bases de la médecine équine. Alors pourquoi l'intérêt des Grecs pour la médecine équine? C'est que Michel, rappelons que le cheval était essentiel à la vie à l'époque, au transport et au prestige des classes nobles qui le montaient. Il convient donc d'en prendre soin.
Alors vous êtes sur CFM et vous écoutez les messagers du cheval. Donc les Romains ont suivi un peu le chemin des Grecs, je crois.
Non, pas vraiment, parce que les Romains n'apportent pas la même attention à la cavalerie que les Grecs. Et par conséquent, le cheval n'a pas un statut particulier et donc ne reçoit pas de traitement particulier. Alors ce que l'on sait, hein, les soins le concernant s'inscrivent dans des ouvrages consacrés essentiellement à l'agriculture, donc des ouvrages plus généraux où le cheval apparaît aux côtés des vaches, des moutons, mais il n'a pas cet intérêt, enfin les Romains ne lui portent pas le même intérêt que les Grecs.
Alors ça, juste une petite parenthèse, si tu le permets Virginie, je viens de relire toute la guerre des Gaules et César ne parle pas des chevaux. Il parle simplement pour dire combien il y en a eu qui ont été tués, mis en morceaux, etc. Mais il ne parle pas, on ne sait pas quel est le cheval qui monte, en fait, et ni ses officiers. C'est mystère total.
Donc tu vois, ça correspond à ce que je...
Ah, tout à fait,
à ce que
oui,
nous
tout
disions.
À fait. Oui,
alors, ce qui est important aussi de bien comprendre, Michel, c'est que les hippiatres de l'époque antique ne connaissent pas les causes des maladies. Ils se contentent, dans leur traité, de décrire leurs observations des symptômes, mais ils ne proposent aucun remède fiable, hein, dont on est sûr. Donc, la grande avancée, et c'est celle dont nous allons parler maintenant, nous la devons, en ce qui concerne le traitement des maladies des chevaux, aux hippiatres arabes.
Alors, pourquoi ceux-ci s'intéressent-ils tant aux chevaux, en fait?
Ben, tout simplement parce que dans la civilisation arabe, le cheval occupe une place privilégiée, et en conséquence, les hippiatres arabes cherchent à trouver des remèdes à ces maux. Alors pour cela, ils s'appuient sur les textes antiques que nous avons évoqués, mais ils vont pousser leurs recherches plus loin. Comment sait-on tout ça? Tout simplement parce que dans le monde arabe, l'étude du cheval et les soins qui lui sont prodigués sont développés dans des traités qu'on appelle de Furisiyya, qui apparaissent dès le 8e siècle à la cour de Bagdad. Il n'y a aucun équivalent en Occident à ce mot, Michel, forgé par les Arabes, sur la racine faras qui désigne le cheval. Alors, ces traités de Furicilla rassemblent l'ensemble des connaissances équestres, qu'elles soient théoriques ou pratiques, donc il s'agit d'hippologie, d'hippiatrie, de dressage, d'élevage et également de maréchalerie.
On va peut-être faire une petite pause musicale. Alors, s'il te plaît, Virginie, j'ai écrit comme un cochon. Est-ce que tu pourrais dire le titre de la chanson ?
Alors, il s'agit d'un album du groupe irlandais Dead Can Dance et le titre, c'est The Ubiquitous Mr. Grove.
Ouf, là, c'est beaucoup mieux.
That you knew it all. Well, you've seen it 10 times before. I thought that you had it down with both your feet on the ground. I love slow but deep pained affection wash over me. inside of you. Never let it be said I wasn't true. I gave you all my time. I gave you all my time.
Alors, Virginie, que sait-on de ces hippiatres ?
Alors, les hommes qui écrivent donc ces fameux traités, hein, vivent au contact des chevaux. Ce sont des écuyers, des maîtres d'écurie ou des vétérinaires. Comme on l'a dit tout à l'heure, avant la coupure musicale, hein, les traités de Furicilla exposent les principes d'élevage, de dressage et d'entraînement, ainsi que les traitements vétérinaires. Qui lit maintenant ? Qui a accès à ces traités ? Eh bien, ce sont les fils des princes et l'aristocratie, en sachant qu'ils développent un code qui est basé sur le courage et la valeur morale, qui est très similaire à nos codes de chevalerie, Michel. Et grâce à ces traités et à ces codes, ils transmettent un savoir, et notamment qui permet de soigner les chevaux. Ces traités sont anciens, mais beaucoup ont été perdus. Et un des plus anciens qui aurait été écrit au 9e siècle, elle a été par, alors on me pardonnera la prononciation des mots arabes, hein, Unyan Ibn Ishaq, traducteur de textes scientifiques grecs et responsable des écuries du calife abbasside Al-Mutadid, qui a régné entre 892 et 902. Malheureusement, nous n'avons pas de traces de cet écrit. Par contre, le premier traité conservé a été écrit à la même période, et il est très célèbre, hein, il a été écrit donc par Ibn Hizam. Alors, il n'a pas de traduction en français, donc je le livre tel quel, hein, Kitab al-Furisiyya wa al-Baitra, et il servira de référence pour les siècles à venir. Tu as vu, Michel, que le premier était traducteur de textes scientifiques grecs, et c'est important parce que les auteurs de ces traités rassemblent toutes les connaissances d'origine ancienne, qu'elles soient persanes, qu'elles soient arabes, qu'elles soient grecques, et ils synthétisent tout ça. Mais ils ne se contentent pas de synthétiser, parce qu'ils y ajoutent leur propre expérience avec les chevaux. Et c'est vraiment une caractéristique de ces traités.
Absolument, oui.
Alors, on en a un autre exemple avec un manuscrit du XIIIe siècle, hein, d'Ahmed Ibn Anaf, abrégé sur les sciences vétérinaires, qui s'appuie, lui, sur des sources grecques tardives, tout en apportant de nombreuses observations originales. On peut y voir notamment des planches illustrées montrant l'application d'une teinture désinfectante sur la plaie d'un cheval ou la cautérisation, c'est difficile à dire, d'un membre inférieur. La Furicilla va connaître une ampleur particulièrement importante au XIIe et XIIIe siècle grâce aux Mamelouks. Donc rappelons, Michel, hein, que ce sont à l'origine d'anciens esclaves qui servaient les sultans d'Égypte et qui étaient originaires des steppes turques. Ils ont pris le pouvoir sur l'ancien empire ayoubide créé par Saladin, le grand
qui était kurde, prince, entre parenthèses,
voilà,
Saladin,
qui a repris Jérusalem.
Oui.
Donc Saladin, je rappelle ses dates, hein, c'est 1174-1193, et donc les Mamelouks ont régné sur l'Égypte, la Syrie et la Palestine jusqu'à la conquête ottomane en 1517. Et c'est sous le règne du sultan Mamelouk Malik al-Nasir ibn Saif el-Din Kalaoun, qui a vécu entre 1258 et 1341, qui gouverna l'Égypte et qui fut écrit donc l'un des traités vétérinaires le plus important, le Nasseri.
Le fameux Nasseri, absolument, oui. Et donc, qui en serait l'auteur ? Est-ce qu'on le sait ?
Absolument. Il s'agit de Abou Bakr ibn Badr, qui était maître en chef des écuries et également vétérinaire en chef des écuries de ce sultan, hein, Mamelouk d'Égypte. D'ailleurs, c'est pour cela, Michel, que le nom du traité renvoie à celui du sultan, puisque le sultan s'appelle Al-Nasir, d'où Nasseri.
Absolument. Alors, vous êtes sur CFM, mais vous écoutez Les Messagers du Cheval. Alors, si nous continuons, Virginie, que peut-on dire plus précisément sur le traité ?
Alors, ce traité réunit des connaissances acquises en hippologie et hippiatrie en provenance du monde grec, arabe, perse, assyrien et indien, auquel Abou Bakr Ibn Badr va ajouter ses propres expériences ainsi que celles de son père qui était également vétérinaire. Donc, si les Arabes recommandent les mêmes traitements que les Grecs anciens, la grande différence, c'est qu'ils font preuve d'innovation. Une vraie subtilité, hein, c'était remarqué par les vétérinaires modernes, dans certains de leurs diagnostics, et ainsi qu'une très grande précision dans des descriptions chirurgicales. Donc c'est un traité majeur, bien supérieur à ce qui se faisait alors en Occident, car chez nous, Michel, on s'en tenait aux soins portés à l'extérieur du cheval, et l'on n'abordait pas, ou très peu, les maladies internes.
Alors que peut-on dire précisément sur le traité ?
Alors, ce livre est composé de 10 exposés, hein. C'est ainsi que le présente l'auteur. Chaque exposé comprend plusieurs chapitres et leur nombre varie de 10 à 71 par exposé. Les 4 premiers traitent de l'hippologie. Alors, généralité sur le cheval, robe du cheval, du mulet et de l'âne, critères de sélection du cheval quand on veut en acheter un, visite justement et examen d'achat du cheval et ce qu'il appelle les vis rédhibitoires. Donc voilà quelques exemples que l'on trouve dans les 4 premiers traités. Les 5 suivants, eux, sont entièrement consacrés à l'hippiatrie. 3 d'entre eux rassemblent différents groupes de maladies avec leurs traitements. 1 ne s'intéresse qu'aux préparations pharmaceutiques. Et le dernier est consacré à la férure. Enfin, le 6e regroupe les saignées, le code de déontologie du vétérinaire, les traitements des maladies dermatologiques, encéphaliques, auriculaires, oculaires, nasales et buccales. L'exposé 7, lui, s'intéresse au traitement des maladies qu'il qualifie de régions de la tête, de l'encolure, des épaules, des mains, des tendons et des sabots. Le 8e exposé concerne, lui, les maladies, précise-t-il, qui n'ont pas encore été traitées, mais aussi la dystocie. Alors rappelons, Michel, que la dystocie, c'est les accouchements douloureux. L'embryotomie. Les moyens contraceptifs et la castration. Donc tu peux voir vraiment que c'est quelque chose de très très complet.
Oui, c'est ça, c'est pas simplement une description externe, mais c'est aussi, on va voir à l'intérieur comment ça marche.
Oui. Enfin, l'exposé 9 s'intéresse à toutes les préparations officinales, donc pharmaceutiques, donc les collyres, les purgatifs, les astringents, sont des produits pour resserrer les tissus vivants, les onguents, les bains topiques, c'est-à-dire qui agissent là où on les applique, les cataplasmes, les feux, les emplâtres, les préparations en poudre, les lavements, ainsi que tous les moyens de contention orthopédique et incantation. C'est extrêmement intéressant. Ils utilisent énormément de plantes, également des parties animales, hein, de la graisse. Beaucoup de graisse apparaît dans les préparations. Et c'est très, très logique. Hein. J'ai montré un jour à un vétérinaire des préparations et il a reconnu beaucoup d'éléments
il n'a pas été surpris. Oui, d'accord.
Et alors, ce qui est aussi amusant, Michel, c'est que il conclut chaque fois qu'il propose quelque chose, il termine toujours sa présentation en disant « ça marche si Dieu le veut ».
Oui, ça, bien sûr, c'est absolument.
Alors, le Nasseri a été traduit pour la première fois en français par le docteur Nicolas Perron, qui a vécu entre 1798 et 1876, et qui était directeur de l'école de médecine du Caire et du collège arabe français à Alger. Le traité a été édité en plusieurs volumes, entre 1852 et 1860. Et alors là, je ne résiste pas de te donner le nom de l'imprimeur. Hein. C'était l'imprimerie et librairie d'agriculture et d'horticulture de la veuve Bouchard-Huzard. Et il a été imprimé sous le titre « Le Nasseri, la perfection des deux arts » ou « Traité complet d'hippologie et d'hippiatrie arabe ». Enfin, il réapparaît dans une nouvelle traduction plus moderne en 2006. Et donc, on peut se le procurer aujourd'hui facilement.
Alors, peut-être que nous continuerons ce cycle la semaine prochaine, éventuellement.
Peut-être la semaine prochaine. En tout cas, il est certain qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'hippiatrie arabe, sur l'hippiatrie en général. Ouais. Et comme tu le dis, Michel, ça sera l'objet de nouvelles émissions.
Nous arrivons à la fin de l'émission, Virginie. Toutes les meilleures choses ont une fin, nous le savons. Alors tous les mardis et tous les samedis, il y a un cheval dans les studios de CFM Radio 107.9. L'animal est également présent sur CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2 les mercredis et les samedis à 10h. Alors merci Virginie pour ce très très bel aperçu de la médecine vétérinaire arabe en particulier. Sur ton exposé, j'ai été absolument... c'est incroyable d'être surpris à ce point de modernisme. C'est pas du n'importe quoi. Quand on voit dans en France par exemple, dans les pays autour, comment la médecine est arrivée très pesamment, très difficilement, etc. Là, on a des gens qui ont étudié, qui ont compris des mécanismes vivants et qui les ont utilisés. Et ça, c'est vraiment une belle leçon que nous devons retenir peut-être.